Bienvenue à ce discours qui est une continuité, comme vous l'avez compris. Hein, je continue à essayer d'étaler la cartographie. Et parfois, là par exemple, c'était le cas, je me dis, mais dans quoi est-ce que tu t'embarques? Des fois, je me dis, il y a des fois, je me dis, qu'est-ce que tu dois en dire des conneries aussi? C'est vrai, hein? Je me le dis, hein, parce que j'en suis conscient. Imaginez, c'est pas possible autrement. Hein. Bon, ça a l'air d'être utile, certains. Ils me disent que c'est sûrement pour ça que je continue. Oui, j'espère en tout cas. J'espère que ça génère beaucoup de curiosité, beaucoup de questionnements. Et de temps en temps que ça apporte des informations et des nouvelles directions. Mais surtout la curiosité et le questionnement. Donc là, soyons humbles, je vais juste parler d'identité personnelle, d'ego, d'amour et de conscience. Je vais essayer de me limiter un peu à ça. On va voir. Donc je peux repartir avec cette phrase de Nancy Houston dans son livre L'espèce fabulatrice, qui nous disent, en parlant des animaux, les sens transmettent des informations lacunaires au cerveau qui construit à partir d'elles une image d'un monde complet. Donc ça, j'espère que jusque-là, vous êtes toujours tous avec moi. Nos sens nous transmettent des informations lacunaires, donc il y a plein de choses qui ne sont pas transmises de la réalité. Mais nous avons l'impression d'une perception complète. Donc l'histoire que l'on fabrique à partir de ces sens, puisqu'il s'agit de fabriquer des histoires en fait, l'histoire que l'on fabrique, la cartographie que l'on fabrique, on a la sensation que c'est une cartographie complète, toujours. C'est ce que l'on disait là dans le dernier discours. Et dans cette cartographie complète, une cartographie qui nous semble complète, il y a notre sens de nous-mêmes, notre sens d'identité. Donc on a l'impression qu'on perçoit la totalité de nous-mêmes. Il est difficile d'être conscient de ce qu'on ne perçoit pas de nous-mêmes. On a l'impression qu'on a une image assez complète de nous-mêmes. Souvent, on va d'ailleurs entendre que ben moi je me connais, hein, voilà. Et puis derrière, tout un tas de limites en fait, à qui on est. Hein, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis pas comme ça je sais pas faire, ça se. Hein, Donc on a cette sensation intime de se connaître, alors qu'en fait on perçoit très très peu de ce qu'on est. Mais on ne se rend pas compte. Une chose qu'on ne perçoit absolument pas, parce que ce n'est pas possible de percevoir ça à travers les cinq sens, je pense, c'est la façon dont nous sommes interconnectés et du coup interdépendants. Nisargadatta Maharaj, vous l'avez compris, un des maîtres qui m'a beaucoup inspiré dans l'Advaita, cette tradition de l'hindouisme, disait, il n'existe qu'une seule réalité dans laquelle rien n'a d'existence indépendante. C'est une manière de formuler l'interconnexion ou l'interdépendance. Il n'existe qu'une seule réalité dans laquelle rien n'a d'existence indépendante. Mais ça, on ne perçoit pas ça. Par exemple, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas avec les cinq sens, c'est quelque chose qui n'est pas manifeste dans notre expérience quotidienne. De là, on en déduit qu'on est des êtres séparés. Puisqu'avec nos informations lacunaires, dans laquelle il manque cette perception de notre interdépendance et de notre interconnexion, on ne perçoit pas ça. Du coup, on a la sensation qu'on est des êtres séparés les uns des autres, indépendants. Cette sensation, à mon sens, de cette sensation naît la possibilité de l'ego. n'y aurait pas la possibilité de l'ego s'il y avait la vision que c'est une histoire commune où on est tous. Il n'y a pas. Attendez, comment est-ce que je vais m'y prendre? Prenons au niveau de la dépendance, prenons par exemple pour la France, par exemple. La France est une invention humaine. Hein, les animaux ne voient pas la France. Hein, ils passent d'une montagne à l'autre, ils ne savent pas qu'ils sont d'un pays à l'autre. C'est une invention humaine et qui n'a d'existence que parce que les autres pays reconnaissent cette invention aussi et appellent ça aussi la France. La France ne peut exister qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance de tous les autres pays, de ça c'est la France et ça c'est pas la France. Ah, je savais bien que ça allait pas être simple. Ok, je m'y prends autrement. Dans notre pensée, dans la manière dont nous nous envisageons, nous sommes influencés par notre culture. Donc en fait, notre pensée, notre image de nous-mêmes est culturelle. Alors, je le disais aussi dans le discours précédent, la culture de notre civilisation était bien différente il y a 1000 ans, et la manière d'envisager ce qu'est un individu, ce qu'est la vie et ce qu'est, enfin, ce qu'est la personne, en fait, était probablement extrêmement différente. Et du coup, avait un effet très différent sur la communauté aussi bien que l'individualité. Et dans d'autres pays, qui ont d'autres cultures, la manière de s'envisager en tant qu'individu est très différente. Pour nous, un des tournants qui fait la manière dont on se pense maintenant, la manière dont on s'envisage, la manière dont on s'imagine, la cartographie de ce qu'on pense qu'on est, s'appelle l'herméneutique, la manière dont on interprète, dont on s'interprète nous-mêmes, a été drastiquement influencé par la période, le siècle des Lumières, avec comme philosophe phare peut-être Descartes, hein, qui, avec son cogito, est arrivé à la conclusion, à travers un processus extrêmement logique de remise en question, hein, donc il partait du fait de quoi est-ce que je peux être sûr pour construire une philosophie, en fait? Parce qu'une philosophie aurait besoin d'une base indiscutablement sûre. Hein, si quelqu'un peut remettre en question déjà mon point de départ, du coup, tout le reste s'effondre. Donc il me faut un point de départ qui soit solide. Qu'est-ce qui peut être sûr avant de démarrer à philosopher? D'où est-ce qu'on démarre la construction? C'est quoi les fondations? Et donc là, il fait toute une réflexion, ça s'appelle le cogito. Et il en vient à se demander si lui-même, le penseur, existe. Hein, qu'est-ce qui me dit en fait que j'existe? Et il en vient à cette conclusion qu'on connaît tous, parce qu'elle a vraiment très fort influencé notre pensée, c'est je pense donc je suis. Plutôt, ce qui dit plus en détail, c'est je pense et je vois que je pense. Je suis le témoin de ma pensée, donc j'existe, je suis. Et un passage que je trouve très intéressant, c'est la réponse de Nietzsche, 200 ans plus tard, à ce cogito et à ce système logique. Je vous la lis. Ah, vous allez voir, c'est très à la Nietzsche, sarcastique, humoristique. Si l'on parle de la superstition des logiciens, donc ceux qui pratiquent la logique, comme le faisait Descartes. Si l'on parle de la superstition des logiciens, je ne me lasserai jamais de souligner un petit fait très bref que les gens atteints de cette superstition n'aiment guère avouer. C'est à savoir qu'une pensée vient quand elle veut et non quand je veux. Hein, on voit déjà en méditation, on le voit ça. Hein. Elle vient quand elle veut, pas quand je veux. Hein, vous sentez, il y a quelque chose là. En telle sorte que c'est falsifier les faits que de dire que le sujet je est la détermination du verbe pense. Quelque chose pense, mais que ce soit justement ce vieil et illustre jeu, ce n'est là, pour le dire en termes modérés, qu'une hypothèse, une allégation. Ce n'est pas une certitude immédiate. Enfin, c'est déjà trop dire que d'affirmer que quelque chose pense. Ce quelque chose contient déjà une interprétation du processus lui-même. Déjà dire que quand il y a une pensée, dire que quelque chose pense, c'est déjà en dehors du fait de relater juste ce qui est vu. Ce qui est vu, c'est penser. Le fait de dire « je pense » est déjà une extrapolation, est déjà un processus métaphysique. Et alors, lui, Nietzsche, dit tout ça, il dit, parce qu'il dit en fait que l'illusion est d'origine grammaticale, il dit « on raisonne souvent selon la routine grammaticale. Penser est une action, toute action suppose un sujet, donc s'il y a pensée, il y a un jeu qui pense. » Donc la certitude d'une identité individuelle est une nécessité pour l'existence d'un ego. Et l'ego, alors l'ego ici, c'est ça qui est difficile, c'est de déterminer les termes. Si vous lisez différents philosophes ou différents maîtres spirituels, vous allez voir qu'ils utilisent les mots de façon très très différente. Donc je ne sais pas ce que vous entendez quand je dis ego. Et en fait, je ne sais même pas moi exactement où je place les limites entre, par exemple, ego et personnalité. Hein, où s'arrête un, ou c'est quoi en fait qui distingue? C'est cette clarté-là que peu à peu, en fait, il faut l'avoir, cette clarté pour pouvoir penser les choses. Et pour pouvoir voir clair, il faut avoir cette précision de la pensée. Pour moi, je vois bien que je n'en suis pas, ce n'est pas encore suffisamment précis. Si j'essaye maintenant, je pourrais dire, pour moi, que ce que j'entends par ego, c'est... Je vais commencer par personnalité. Ce que j'entends par personnalité, c'est les spécificités de chacun. Par exemple, chaque arbre est différent. Voilà. Et là, je suis bien d'accord de dire que on a une forme différente, avec des compétences, des talents, des capacités, un passé, une histoire, et un caractère. Voilà, tout ça, je mettrais du côté personnalité. Et ego, je mettrais plutôt du fait de la sensation d'exister indépendamment des autres, un peu comme si on était auto-créé, vient la sensation, une tendance pratiquement maniaque de chercher à se situer par rapport aux autres, à savoir si on est plus ceci, moins ceci, se comparer, se juger les autres, se créer du coup une sur-identité de super-héros, de victimes, de... Mais moi. Moi, moi et moi. Et encore moi. Voilà, l'ego, c'est cette espèce de surenflement, en fait, du moi. L'identité, la personnalité, n'a pas forcément ça. S'il y avait une personnalité sans un ego, il y aurait des spécificités et des différences, mais il n'y aurait pas une constante tentative d'appréciation de ma valeur, de la valeur des autres, et de « est-ce que je suis meilleur, est-ce que je suis moins bien ?» Ça vient de, à mon sens, ça vient du fait qu'on ne perçoit pas, dans notre expérience directe, le fait qu'on est tous interconnectés, et qu'en fait on est comme les doigts d'une main. J'aime bien cette image, c'est comme si on est comme les doigts d'une main, les doigts ne sont pas en train de se demander lequel est le meilleur, lequel est le plus grand, lequel est le plus gros, lequel se plie le mieux, et lequel est le plus utilisé, lequel est le préféré de la tête. Ils ne se posent pas toutes ces questions-là, les doigts. En fait, parce qu'ils sont un, c'est la même main. Et on pourrait s'imaginer comme nous, comme si on était les doigts de la terre, par exemple, hein, pour prendre une image. Comme si on était tous, ou si on était cette image qui me vient et qui m'est venue un jour quand j'étais en Inde et qui me revient très souvent depuis les images, c'est magnifique. Ça nous aide en fait à ressentir et à ancrer notre philosophie. Et cette image qui me vient, c'est cette image des vitraux. En fait, tous les vitraux sont différents, mais c'est la même lumière en fait qui les illumine. Les vitraux existent, sont visibles, parce qu'ils laissent passer la lumière. Et en fait, c'est la même lumière dans chaque vitrail. Et du coup, nous, on peut s'imaginer avec une identité commune. On pourrait imaginer, par exemple, la conscience. La conscience serait notre identité commune. Et du coup, elle ne serait pas ma conscience. De la même manière, ce serait aussi bête qu'un vitrail qui dirait ma lumière, comme si c'était lui qui créait de la lumière. Mais de ne pas savoir qu'on est interconnecté parce qu'on est tous, on a tous une même source, crée une sensation de n'avoir aucun lien. Et de là peuvent naître à ce moment-là toutes les atrocités que peuvent faire connaître un ego trop enflé. Et donc dans cette compréhension de l'ego, plus il y a d'ego, plus on souffre, plus il y a d'ego, plus on fait souffrir. Alors quand on pratique la méditation, j'ai envie de dire presque que l'ego, c'est la première chose qui disparaît. Parce que c'est la chose la plus superficielle. Si on prend l'image de l'oignon, en fait l'ego, c'est la couche extérieure. Donc, c'est-à-dire que quand l'esprit se pose, qu'il n'est plus en activité, il ne fabrique plus cette idée, cette carte, cette interprétation. Elle a besoin d'une activité cérébrale pour exister dans notre moment. On a des moments où ce n'est pas là. On a des moments où c'est très très là. Il y a des moments où notre ego est exacerbé. Des moments où quelqu'un nous insulte, par exemple, ou des moments où on ressent de la honte ou une grande frustration. C'est des moments où notre ego est exacerbé. Notre sensation d'être séparé, souvent avec des blessures, notre ego est exacerbé. Notre sensation d'être séparé des autres, d'être différent. On a des moments où l'ego n'est pas aussi exacerbé. En fait, notre curseur bouge constamment. On a des moments avec très peu d'ego. Une balade de nouveau en nature, quand il n'y a pas beaucoup de pensées, ben, il n'y a pas beaucoup d'ego qui est là. Et quand le curseur va encore plus vers le bas, à ce moment-là, on peut faire l'expérience de soi avec une absence complète des manifestations de l'ego. Il y a toujours la sensation d'exister, sous forme d'une conscience, qui intuitivement est interprétée comme « je suis conscient », parce que c'est notre cartographie. C'est notre conditionnement. Quand il y a conscience, il y aura toujours la sensation « je suis conscient ». À moins qu'on s'ouvre à la possibilité qu'il puisse y avoir de conscience sans qu'il y ait un individu conscient. Vous voyez les questions où elles nous amènent. D'où la question « qui suis-je ?». Donc, je le disais, la méditation nous amène à des états d'être dans lesquels n'apparaissent plus les traits de notre ego, les traits de notre identité spécifique, les traits de notre individualité. Il va rester la sensation « je » tant qu'on ne s'ouvre pas encore plus loin à laisser aussi partir la sensation « je ». Une autre approche, c'est à travers la question « qui suis-je ?», qui pense, qui... Quand il y a une pensée, par exemple, qui est le penseur? C'est ça la question « qui suis-je ?». Quand on entend l'oiseau, la question va être « qui entend l'oiseau ?». Hein, c'est pas forcément qu'on se le dit, parce que c'est lourdingue de tout le temps se dire ça dans sa tête, mais à un moment, ça devient comme un automatisme. Parce que quand on se pose cette question, en fait, cette question tourne vers le sujet. Qui entend l'oiseau? Bah, notre regard n'est plus vers l'oiseau, il est vers le sujet qui entend l'oiseau. Avec une interrogation. C'est qui exactement? Hein, et là, peu à peu, en fait, on découvre le phénomène de la conscience. Quand on pratique ce chemin de qui suis-je, en fait, ce que ça met en exergue, c'est la présence de la conscience dans toute expérience. Toute expérience nécessite une conscience. Et donc, dans chaque moment, dans chaque expérience depuis qu'on est né, il y a toujours eu la présence de cette conscience. J'affirme ça comme des grandes vérités. À vous de checker, voir si ça correspond à votre herméneutique, à votre philosophie, comment ça se place, et surtout à vous d'y réfléchir, de vous approprier cette compréhension peu à peu et d'essayer de l'appliquer, c'est-à-dire dans vos méditations ou dans vos moments dédiés à votre recherche spirituelle, d'essayer de voir, d'essayer d'imaginer, tiens, quand il y a une expérience, qui est le témoin de cette expérience, quelle que soit l'expérience, qui est le sujet? Et les maîtres de ce style, comme Nisargadatta Maharaj, comme Sri Ramana Maharishi, et d'autres, en fait, en viennent à la conclusion que l'attention, la capacité d'attention, cette attention qui est là en ce moment, cette attention qui est tout le temps là quelque part, qui va là, qui va là, qui va ici, qui va là, et le cœur est notre essence. C'est le cœur de notre identité. Et elle n'est pas individuelle. Elle n'est pas un produit du cerveau. C'est difficile à comprendre pour nous, ça, parce qu'on a cette culture matérialiste. Donc même les neurosciences, maintenant, imaginent que la conscience est un produit de la totalité de l'activité cérébrale. Il y a plus ou moins 98%, je disais, des neuroscientifiques qui pensent comme ça, et 2%, qu'on appelle les post-matérialistes, qui pensent que la conscience pourrait être quelque chose qui, en fait, n'est pas un produit du cerveau, mais le cerveau plutôt serait comme un récepteur. Donc un peu comme un ordinateur, Internet n'est pas dans l'ordinateur. Il est ce qui permet, l'ordinateur est ce qui permet de capter Internet. Mais Internet n'est pas dans l'ordinateur. On peut casser l'ordinateur, on ne casse pas Internet. Et pareil, là, on pourrait imaginer que quand le cerveau s'arrête, puisqu'il est matière, et que comme disait le philosophe Pascal, la matière, bah, c'est ce qui ne dure pas, et ben, quand le cerveau s'arrête, on peut imaginer, dans cette hypothèse, dans cette herméneutique, dans cette manière de voir, on peut imaginer que quand le cerveau s'arrête, la conscience n'est pas affectée par ça. C'est la théorie spirituelle, on pourrait dire. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire aussi que la conscience a une existence hors du temps. Elle n'est pas liée au temps de la même manière que la matière. Mais de nouveau, là, c'est de la métaphysique, c'est une manière de créer une philosophie et une interprétation. Toujours attention. Le but n'est pas de dire c'est comme ça et c'est pas comme ça. Le but est, si je pense comme ça, est-ce que ça libère? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça permet au cœur de rayonner? Est-ce que je me sens vivre d'une manière de plus en plus digne en pensant comme ça? À ce moment-là, c'est bon. Regardez, Socrate. Donc Socrate, très certainement un des grands philosophes de tous les temps, qui lui a été accusé de sophisme, donc c'est-à-dire de discuter avec les gens de tout un tas de théories, y compris de théories contradictoires, pour le plaisir de les explorer. Et du coup, il a été condamné, il avait la possibilité de fuir Athènes, mais il n'a pas voulu, il était condamné à mort. Du coup, on est venu le chercher. Il devait boire, je crois que c'est de la ciguë, un poison. Et pour lui, il a toujours pensé, en fait, que ce qu'on percevait, les perceptions qu'on a, c'est un reflet incomplet de une réalité parfaite. Hein, d'où ceux qui connaissent la caverne de Platon, c'est un peu dans la lignée. Ce qu'on perçoit, c'est des ombres de quelque chose de beaucoup, de bien plus parfait. C'était sa philosophie, c'était sa cartographie, c'était son herméneutique. On adhère pas. C'est pas une question de dire c'est juste ou c'est pas juste. C'est une question de voir si ça fonctionnait bien ou pas. Et lui, Socrate, eh ben, il y a des écrits en fait de son procès et puis de sa condamnation et de sa mise à mort. Eh ben, il a bu le poison gaiement, à grande goulée. C'est décrit comme ça, parce qu'il allait rejoindre le monde de la perfection. Vous voyez à quel point une philosophie en fait va impacter sur la manière dont on vit. Et ce qu'on cherche, c'est pas une philosophie, je le dis toujours parce que c'est tellement important, c'est pas une philosophie qui soit ontologiquement juste, c'est-à-dire prouvable scientifiquement et que toutes les civilisations devraient accepter de la même manière et qui est juste une fois pour toutes et éternellement. C'est une philosophie qui est une manière de créer une cartographie, une manière d'interpréter qui fonctionne bien et qui n'est pas en contradiction avec les faits. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une philosophie qui est absolument complètement impossible. Genre, moi je pense que si je veux, je peux sauter d'un rocher et voler. Ça, c'est en contradiction avec les faits. On dit contradiction avec les faits. Mais une philosophie qui n'est pas en contradiction avec les faits et qui a et qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui crée une belle vie et une belle personne, elle est juste. Rien à dire. Et toutes les religions, quand elles sont bien comprises, c'est-à-dire quand elles sont interprétées pour dans la direction de l'amour, véritablement, et pas dans la direction de l'ego, ce qui est souvent ce qui se passe. En fait, les religions ont été interprétées, ont été récupérées par les gens qui avaient un trop-plein d'ego et qui, du coup, les ont utilisées pour du contrôle et ça en fait quelque chose d'horrible. Mais quand elles sont interprétées tout à fait différemment, elles sont toutes belles, en fait. Et on a vu dans toutes les religions de très belles personnes sortir de là. Là, ça me fait penser à... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Je crois que c'est Maximilien Kolbe qui était donc c'était un homme religieux qui était à Auschwitz dans le camp de concentration d'Auschwitz et là il y avait eu un jour il y a des détenus du camp qui se sont évadés et du coup les SS ce qu'ils faisaient c'est que quand il y en avait qui s'évadaient ils ont tué le même nombre dans le camp déjà. L'histoire de démotiver ceux qui voulaient s'évader, ils savaient que dans le camp, du coup, il y aurait des morts. Et c'était, bah, c'était une torture, en fait, de la manière dont ils les tuaient. Ils les mettaient dans des petites pièces par quatre, dans des pièces d'un mètre sur un, donc ils étaient tous serrés, puis ils les laissaient mourir, là. Et donc là, il y a des détenus qui sont évadés, et ils prennent au hasard des gens qui vont du coup mettre dans ces petites pièces jusqu'à ce qu'ils meurent. Et il y a un jeune homme là qui supplie parce qu'il a des enfants, parce que il veut pas mourir, il a des enfants, il veut retourner chez lui. Et là du coup, ben, le père Maximilien Kolbe, qui lui n'avait pas d'enfants, dit ben je vais à sa place. C'est énorme. Mais c'est parce qu'il avait une philosophie qui soutenait ça derrière. C'est pas instinctif de faire ça. C'est pas de la pleine conscience, ça. C'est la philosophie, c'est la manière de voir la vie, la manière de concevoir qui a fait de cet homme un bel homme. Et donc nous, tous, nous nous fabriquons des philosophies. Nous imaginons des histoires, nous nous inventons notre histoire, nous nous inventons nous-mêmes notre identité. L'ego est une invention. N'a aucune racine perceptible nulle part. C'est une invention. C'est un processus imaginaire qui a peut-être certains, qui était peut-être nécessaire à certains moments dans l'évolution des espèces, peut-être nécessaire à certains moments dans notre évolution individuelle de notre vie, et puis qui à d'autres moments commence à poser de sérieux problèmes. Mais ce n'est pas une réalité, c'est une invention qui a besoin d'être tout le temps réaffirmée par notre esprit. De la même manière que je décrivais dans l'Advaita, et dans certaines branches du bouddhisme, c'est formulé autrement, mais cet intérêt pour la conscience elle-même. Hein, donc, c'est-à-dire qu'au début, quand on médite dans certaines traditions bouddhistes, on s'intéresse à la respiration pour focaliser l'attention, pour que le nombre de pensées diminue, du coup le nombre de pensées diminuant, le nombre de constructions mentales diminue, le nombre de constructions mentales diminuant, le nombre de la présence en fait de l'ego et de l'identité individuelle diminue peu à peu. Et quand il y a suffisamment de stabilité, on peut, si on veut, plutôt que rester concentré sur la respiration et sentir tout l'inspire, tout l'expire, on peut amener notre attention sur ceux qui observent la respiration, sur l'attention elle-même. Hein, c'est une branche du bouddhisme. Et dans le soufisme, eux, ils attirent l'attention sur l'amour présent dans chaque chose. En fait, c'est la même chose, mais ça fait une petite différence, mais disons que le principe est le même. Alors je vous lis un passage de Rumi dans le Matnaoui. Renonce à cette croyance dans les phénomènes. Les amours ressentis pour ce qui est doté d'une forme n'ont pas pour objet la forme. Les amours ressentis pour une forme, n'ont pas pour objet la forme. Le rayon de soleil a frappé le mur. Le mur a reçu une splendeur empruntée. Pourquoi attacher ton cœur à une motte de terre, ô simple homme? Va chercher la source qui brille perpétuellement. Je le relis. Renonce à cette croyance dans les phénomènes. Les amours ressentis pour ce qui est doté de forme n'ont pas pour objet la forme. Donc, ce que j'entends là, c'est pas vraiment la forme qu'on aime. C'est la présence de l'amour en nous. Et on l'attribue à cette forme. Et du coup, on s'attache à cette forme comme si c'était cette forme qui contenait l'amour qu'on ressent. Mais en fait, ce qui nous touche, c'est l'amour ressenti dans la présence de cette forme. Le rayon de soleil a frappé le mur. Le mur a reçu une splendeur empruntée. Pourquoi attacher ton cœur à une motte de terre, ô simple homme? Va chercher la source qui brille perpétuellement. Le soufi essaye de voir l'amour en toute chose. De la même manière que le maître Advaita, le pratiquant Advaita, ou dans certaines branches du bouddhisme, va essayer de voir la conscience en toute chose. Rien n'existe sans la conscience. Et bien, dans notre expérience, on peut aussi chercher et se poser la question, et ce n'est pas quelque chose que je fais depuis très longtemps, c'est naissant pour moi, mais de chercher à voir en fait que chacune de mes actions est motivée par l'amour, même les pires. Et du coup, d'être conscient, plutôt que de faire une fixette juste sur les actions, juste sur les gens, juste sur les choses, d'aussi prendre de plus en plus conscience de cet amour omniprésent, qui fait parfois, qui peut faire des colères, qui peut faire de la haine, qui peut faire de la jalousie, qui peut faire de la tristesse, qui peut créer des angoisses, tout comme la joie et toutes les émotions positives. À chaque fois, il y a la présence de l'amour. De la même manière qu'on peut dire qu'à chaque fois, il y a la présence de la conscience. C'est les constantes. Et dans l'hindouisme, on a ces constantes-là aussi. On les retrouve sous la forme d'une trinité. Là, c'est Sat, Chit, Ananda. Et Sat, qui se traduit comme vraie ou authentique. Chit, c'est la conscience, et Anand, c'est la félicité, qui est en fait la sensation d'amour. La félicité, c'est la plus belle des sensations. La plus belle des sensations, c'est d'être en amour. Anand, c'est la félicité, c'est la sensation d'amour. Et dans l'hindouisme, ces trois ne font qu'un. Donc quand il y a quelque chose d'authentique, Sat, il y a automatiquement la conscience qui est présente dans cette expérience et la félicité. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Cette manière d'exprimer, cette cartographie, je l'aime bien aussi parce que elle décrit très bien quelque chose qui se passe dans le processus de méditation. À certains moments, dans nos méditations, et aussi en dehors, moi c'est aussi parfois quand je marche dans la nature, il y a cette sensation, donc de nouveau, quand par chance l'esprit se pose, vu que la pensée vient d'elle-même, hein, c'est pas moi qui pense, ben, il y a des fois où mon attention est suffisamment forte pour que hop, elle laisse y ait une éclaircie dans les nuages. À ce moment-là, l'esprit se pose, il y a beaucoup moins de pensées. La sensation va être de quelque chose d'authentique. Ma sensation va être de quelque chose d'authentique. L'expérience de juste être là consciemment avec moins de je, moins de Denis, moins de mon passé, moins de mes histoires, moins de mes ambitions, moins de mes frustrations, moins de mes échecs, moins de mes désirs. La présence de moi sans tout ça me semble plus authentique que quand il y a tout ça, que quand il y a tout Denis qui est là. Donc, il y a ce cachet d'authenticité. Il y a la présence de la conscience, parce que là, par contre, c'est là qu'on sent le mieux la conscience. On sent la conscience comme un bloc solide. On se sent, à ce moment-là, dans les moments, on appelle ça des moments lumineux, qui arrivent parfois en méditation ou autre, tout ce qui est perçu dans la conscience. On a l'impression, en fait, que la conscience, c'est comme un espace et que les choses sont perçues, vont et viennent, bouge et on se sent très spacieux. Et ça, la sensation est d'être vraiment, vraiment intensément conscient. Il n'y a pas de distraction, si vous voulez. Une pensée peut venir. Ce n'est pas une distraction. Elle passe. Donc ça semble authentique. Il y a la présence de la conscience. Et c'est un état d'un grand bien-être, en fait, dont je parlais aussi dans un des discours précédents, parce que c'est un bien-être étonnant, parce que ce n'est pas le bien-être parce qu'on a réussi quelque chose, on n'est pas en train de se dire « c'est génial, j'y arrive, ma méditation, maintenant je deviens bon », et c'est pour ça qu'on se sent satisfait. Ce n'est pas du tout ça. Il y a un bien-être qui vient d'ailleurs, qui en fait n'est un bien-être qui n'a pas de cause, un bien-être qui n'est pas « je suis heureux et je me sens heureux parce que ceci ou parce que cela ». Il n'y a pas de « parce que ». On a l'impression que c'est un état originel. Et on a l'impression que cet état originel, alors on n'en fait pas tout un grand truc, hein. Il y a un curseur et on va tous vers là, et puis on en sort, et puis on y revient. Parfois on peut aller, avec la méditation, on peut aller, c'est vrai, beaucoup plus profondément. Mais... Donc, dans les moments où il y a moins d'ego et moins d'identité personnelle, moins d'identité construite, il y a la sensation que ce que je vis en ce moment, c'est la même chose que ce que tout le monde dans cette salle vivrait si ces histoires personnelles n'apparaissaient plus et qu'il y avait un grand silence de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'esprit devenait silencieux, ne ramenait plus à travers cette activité, c'est combien ? Je ne sais même pas si ça rime à quelque chose, mais c'est un million de millions, je crois, d'activités à la seconde, le cerveau. Et les pensées, je ne sais plus combien, dizaines de milliers ou centaines de milliers. C'est pour dire que c'est immense. Et donc, quand l'activité cérébrale ralentit, et qu'elle est nécessaire pour amener toute notre identité, Hein, la mémoire, là, les histoires, les mots, le langage, tout ça. Quand ça, peu à peu ralenti et n'est plus là, si ça disparaît de notre expérience ici, dans cette tente maintenant, on va tous faire l'expérience d'une conscience assez simple, en fait, qui est vaste et vide. Et cette conscience vaste et vide, on a la sensation qu'elle est authentique, on a la sensation qu'elle est originelle, qu'elle est notre origine, on a la sensation qu'elle est notre identité. Quand on dit je, du coup, c'est de ça que ça parle. C'est plus de Denis qui est né ici, nana, nana, qui a fait ceci, cela. Nana. Là, le je est venu ailleurs. Et la sensation est très agréable. Dans ce moment-là, rien ne pourrait, aucune idée, aucune envie, aucun désir ne pourrait nous faire bouger de notre assise ou de notre position de méditation. L'idée d'une petite tasse de café, ou j'irais bien reprendre ceci, ou oh, je ferais bien ça, elle va peut-être venir, hein, mais c'est risible. Elle va venir, elle va pas nous attraper, il va pas y avoir aucune saisie. Alors que dans d'autres moments, moi ça m'est arrivé en méditation, je suis là, je galère et tout, j'ai plein de pensées et tout, et puis à un moment il y a la pensée d'une tasse de café, l'envie d'une tasse de café qui naît, et avant même que je le remarque, je suis déjà debout. J'étais tellement distrait que je ne l'ai même pas vu venir. Oh merde! Et là, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, la pensée d'une tasse de café peut venir, mais elle ne va faire naître aucun désir. Ne peut pas remplacer cette profonde satisfaction. La tasse de café ne peut pas me l'amener. Elle n'a plus d'attrait à ce moment-là. Anand, l'amour. C'est une sensation d'amour. Pas amour vers quelque chose, pas amour vers quelqu'un. C'est juste de l'amour. Et donc on trouve, aussi bien dans l'islam que dans le bouddhisme, une grande similitude, qu'il va y avoir deux voies parallèles nécessaires de mener en même temps, qui sont en tout cas de ce que je comprends de l'islam, parce que je n'ai pas énormément de lecture, mais de ce que j'y ai trouvé un peu, en tout cas dans la partie ésotérique, c'est le mariage de la connaissance et de l'amour. Et dans le bouddhisme, on a aussi, Bouddha dans un discours parle des deux ailes de l'oiseau, la sagesse et la compassion. Et l'oiseau a besoin de ces deux ailes pour voler, sagesse et compassion. Et ici, donc, dans ce discours, j'articule en fait ces deux voies, qui est sagesse, c'est-à-dire la connaissance de soi à travers l'observation. L'observation peut-être au début de nos sensations physiques, de nos émotions, de nos pensées, de notre relation, comment le monde extérieur touche l'intérieur et tout ça, donc une forme de connaissance de soi, mais qui peu à peu s'approfondit et va vers le cœur de nous-mêmes, là où à un moment, il n'y a plus rien de mon histoire qui apparaît, sauf cette sensation de conscience, qui est aussi une connaissance de soi. Et l'autre branche qui est l'amour, dans laquelle là on en vient à la métta, où on a commencé à générer de la bienveillance, qui est une des qualités de l'amour, pour ressentir le cœur et pour libérer le cœur, avec cette direction de s'engager de plus en plus à aimer. Parce que, en fait, c'est une autre réalisation qui me semble essentielle, c'est que une grande partie de nos difficultés personnelles viennent pas du fait qu'on n'est pas assez aimé, mais du fait que nous, on n'aime pas assez. On n'est pas, on n'a pas, on manque de capacité d'aimer plus. Et parce que c'est quand on aime qu'on vit l'amour. Ça, c'est pour moi, c'est une grande réalisation. Tout le monde peut m'aimer. Si moi, je n'aime personne, je ne sens rien. Tout le monde peut m'amener tout ce qu'intérieurement, quand je suis dans les couches de mon ego, tout ce que j'ai envie de me porter au nu et de m'admirer et de me respecter, tout ça, si moi, je n'aime personne, je ne sens rien. Peut-être un petit ego trip supplémentaire, mais pas beaucoup plus. C'est, on vit l'amour quand on l'aime, quand on aime. Et donc, c'est à ça que nous amènent ces pratiques de méta, c'est à tourner notre esprit dans la direction de l'amour, de manière à aimer de plus en plus, à aimer les gens, à aimer plus les gens qu'on aime déjà, à s'aimer soi, à aimer les gens qu'on connaît peu, hein, et puis à aimer nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire aimer nos ennemis? Ça veut dire, c'est un endroit compliqué, mais ça veut dire garder une relation profondément humaine avec des gens avec qui on a une difficulté, un désaccord, voire un problème grave, comme le faisaient des maîtres comme Gandhi, par exemple. Donc, ça nous mène vers la question, et ça doit être une question, d'un amour inconditionnel. C'est séparer l'amour des conditions. Parce que les conditions, c'est la tête qui les pose. Je t'aime si ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Sinon, je ferme un peu les portes. On voit ça avec quand on a un enfant. Au début, un enfant lui passe tout quand il est bébé. C'est un amour inconditionnel. Et puis, peu à peu, les conditions reviennent. Et on peut voir, même dans une parentalité, à un moment, des parents qui sont capables des pires atrocités avec leurs enfants. Parce que ils ne supportent plus leur enfant. Parce que les conditions se sont ramenées peu à peu. Donc en fait, la pratique de méta, c'est apprendre à séparer la capacité d'aimer de nos critères et de nos préférences. Et ça, vis-à-vis de soi-même aussi. Est-ce qu'on a besoin de correspondre à nos conditions, toutes, avant de pouvoir s'aimer? C'est chaud. On ne va pas y arriver, je pense. Parce que pour correspondre à toutes nos conditions, déjà, il faudrait remarquer qu'il y en a qui sont contradictoires. Alors là, c'est mal barré. Et puis il y en a qui sont inatteignables. Et puis il y en a, peut-être on les atteindra, mais il faudra encore quelques dizaines d'années. Donc, est-ce qu'on a le droit de s'aimer, même si on ne correspond pas à nos conditions? C'est ça l'amour inconditionnel. Et vers l'extérieur aussi. Ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire être toujours doux et gentil. L'amour peut être colérique, l'amour peut être emporté. L'amour peut être dur, clair. C'est pas la compassion ou la méta. Parfois, il y a une espèce de notion qui m'énerve, moi, de un peu trop édulcoré, trop tout est beau, tout est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est pardonnable. Oui, ok, c'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi peut-être que tout le monde est pardonnable quand on a une bonne compréhension, mais il y a des fois, il faut exprimer clairement notre voix, et il faut être capable, même on le voit dans la colère de Jésus, ou dans le temple. Voilà, Jésus, en Inde, Jésus, c'est le Bouddha de la compassion. Ah, les hindous qui sont très ouverts d'esprit, alors ça se referme là avec Modi et le nouveau gouvernement, mais bon, il y a quand même une grande, grande tolérance dans cette tradition. À Noël, les églises sont bondées d'hindous. Ah, ils y vont parce que c'est le Bouddha Jésus, c'est le Bouddha de la compassion. Ah, voilà, donc nous, Jésus, le Bouddha de la compassion, vous voyez, c'est « aime ton prochain comme toi-même » et tout, il a quand même foutu un beau bordel dans le temple parce qu'il n'était pas d'accord. Et ça aussi, c'était de la compassion. C'est aussi la capacité d'exprimer son désaccord et d'être clair. Donc c'est pas l'amour universel, c'est pas voir tout le monde beau et gentil, et c'est savoir vraiment rentrer dedans aussi. Mais en gardant un lien humain avec chaque personne, et une compréhension, et une ouverture, pas une fermeture, sinon ça devient directement une guerre. Et donc en fait, les deux chemins, sagesse et compassion, vont tous les deux avoir le même effet sur l'ego, la dissolution. Que ce soit la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de soi à travers l'introspection, à travers l'observation, à travers donc, et là, l'introspection et l'observation, un des meilleurs outils, à mon sens, c'est la méditation. Toute l'étude philosophique qui va avec, tout ça, c'est dans la famille sagesse et compassion, toutes ces qualités du cœur qu'on développe peu à peu, et le fait qu'on commence à être de plus en plus attentif aux gens qui nous entourent et de sentir un lien humain et de connexion avec les gens qu'on croise. Du coup, notre attention est là à l'extérieur. Du coup, on sent et on vit de l'amour, qui est une sensation extrêmement nourrissante. Ces deux chemins vont dissoudre l'ego. Parce que ce n'est pas de l'ego qu'on aime. L'ego n'est pas... c'est pas comme si c'était un organe de nous-mêmes qui peut aimer. C'est ce qui empêche d'aimer. Et donc, quand on s'entraîne à aimer, peu à peu, dans les moments où vraiment on aime, pas « je t'aime si tu me donnes ceci » ou « je t'aime parce que tu corresponds à mes conditions », on ne parle pas de cet amour-là. Pas « je t'aime parce que du coup, je vais recevoir quelque chose hein ». Mais souvent, l'amour n'est pas... Il est teinté de ça. On le sait tous, il est teinté de ça. Mais on essaie de l'avoir, peu à peu on marche vers un amour de toujours plus pur, de plus en plus désintéressé. Eh bien, ça veut dire que ça, automatiquement, amène une lumière sur l'ego, amène en fait une dissolution, une impossibilité d'être. Il y a beaucoup de finesse et de subtilité, bien sûr, on peut tout le temps s'occuper des autres parce que ça peut être une fuite de soi-même, ça peut être parce qu'on a besoin d'être apprécié ou de se construire une identité de sauveur, ou il peut y avoir tout ça. Et ça, du coup, reste toujours teinté dans le domaine de l'ego, de la sensation de se sentir séparé, et du coup en insécurité, et c'est cette insécurité qui va nous pousser vers les autres. Et le mouvement est teinté de ça, mais dans le mouvement, à chaque fois, il y a aussi l'amour, et c'est ça qu'on peut faire grandir. Par exemple, c'est quelques dernières phrases que je viens de dire, c'est des endroits où on sent qu'il y a des subtilités. Je ne suis pas en train de dire il faut aider les gens, il faut aider les autres, il faut tourner toute notre attention vers l'extérieur, se désintéresser complètement de soi-même et être toujours voir les besoins de chacun et répondre aux besoins de chacun. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais on peut remarquer que quand on aime, une grande partie de nos problèmes disparaissent. Une grande partie de tous nos petits coins, tous les petits endroits où ça coince entre nous et nous-mêmes. En fait, c'est plus là. Hein, si vous avez eu la chance de tomber amoureux ou même d'un coup de foudre, la tête est vide. Hein. La tête est vide, on fait n'importe quoi. L'amour dissout l'ego. Comme la connaissance. Encore une citation de Rumi, je vais finir là-dessus. Citation que j'aime beaucoup. Tu es un amoureux de Dieu, et Dieu est tel que lorsqu'il vient, plus un seul de tes cheveux ne demeure. À sa vue, sans être tel que toi, s'évanouissent. Tu es une ombre et amoureux du soleil. Le soleil arrive et aussitôt l'ombre est réduite à néant. Merci pour votre attention. Et un petit mot de la fin.
Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.